grand que vous avez de grands bras.
C'est pour mieux t'embrasser, ma fille.
Ma mère grand que vous avez de grandes jambes.
C'est pour mieux courir, mon enfant.
Ma mère grand que vous avez de grandes oreilles.
C'est pour mieux écouter, mon enfant.
Ma mère grand que vous avez de grands yeux.
C'est pour mieux voir, mon enfant.
Ma mère grand que vous avez de grandes dents.
C'est pour te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta et le petit chaperon rouge la mangea.
Quand on parle du loup.
Bonjour et bienvenue dans la série radiophonique Quand on parle du loup. Imaginé et conçu par notre classe de première staff du lycée agricole Georges Pompidou d'Aurillac. Dans ce premier épisode, suite au visionnage du film La Vallée des Loups, du photographe et réalisateur Jean-Michel Bertrand, nous avons cherché les raisons qui l'avaient poussé à entreprendre ce film sur le loup. Jean-Michel Bertrand a grandi au cœur des Alpes. Depuis toujours, il a gardé en tête l'idée de la présence du loup dans les vallées de son enfance et a rêvé de le rencontrer un jour. Pour son premier film La Vallée des Loups, il va donc se lancer un pari fou, partir à sa recherche. Au bout d'un an d'aventure, le 6 juin 2014, il aperçoit son premier loup. Une victoire pour lui qui le motivera à continuer durant 2 années encore.
Quand on parle du loup.
Pour optimiser toutes ses chances de revoir le loup, Jean-Michel Bertrand a suivi des techniques bien à lui. Emprunter les mêmes itinéraires que l'animal, dormir sur son territoire, y faire ses besoins toujours aux mêmes endroits, afin de réussir à s'intégrer dans leur environnement. En parcourant la vallée, il a observé de nombreuses traces de loups. Des excréments, des carcasses de proies, des traces de pattes. Il pose à différents endroits des caméras à détecteurs de mouvements nocturnes. Grâce à ces appareils, il va comprendre qu'il observe une meute, composée d'un couple alpha avec des petits et des loups qui les entourent. Mais un matin, il décide de partir pour ne pas mettre en danger la meute et garder le secret caché dans cette vallée.
Quand on parle du loup.
Sorti en 2016, le film La Vallée des Loups a été un vrai succès en salle en France, avec pas moins de 200 000 entrées selon les chiffres annoncés par le quotidien régional L'Indépendant. Mais les avis autour de ce film sont relativement partagés, même si une grande partie des personnes ayant vu le film apprécient la démarche empruntée par Jean-Michel Bertrand. Jean écrit sur le site Allociné le 8 janvier 2017, je cite « Simple, beau, une belle randonnée dans des paysages magnifiques à la rencontre d'animaux vraiment sauvages. » Le personnage central est très attachant, le point de vue adopté est différent de tout autre film animalier. Lionel écrit lui, toujours sur le site Allociné, le 11 avril 2018, je cite « Bon, à part les images qui sont superbes, le reste est au niveau d'une télé-réalité sans intérêt. Quand on veut faire croire qu'on est le seul dans la nature avec des loups, il faut éviter de se faire filmer par une équipe de tournage. J'intitulerai ce documentaire « Pisse avec les loups ». Jean-Michel Bertrand réalisera à la suite de La Vallée des Loups le film « Marche avec les loups », sorti en 2020, focalisant l'attention et la colère des éleveurs qui sont confrontés aux attaques de loups sur les troupeaux ovins.
Quand on parle du loup.
Par exemple, comme le révèle le journal Nice Matin dans sa publication du 19 août 2020 et le journal du dimanche le 23 août 2020, une quarantaine d'éleveurs et de chasseurs ont brutalement arrêté la diffusion du film « Marche avec les loups » le 2 août 2020 dans le cinéma Le Bégot à Tende, dans les Alpes-Maritimes. Sur les réseaux sociaux, nous avons trouvé beaucoup de commentaires haineux, publiés suite à la diffusion des films de Jean-Michel Bertrand et à ses interventions dans les médias. Comme Jean-Michel Bertrand, à travers ce podcast, notre classe est partie à la recherche du loup, mais sous un angle journalistique, pour objectiver les nombreuses questions que pose le retour du loup en France et rendre ce sujet beaucoup moins passionné et beaucoup moins polémique. Retrouvons maintenant, pour compléter ces informations autour du loup, Monsieur Éric Février, vétérinaire et membre du comité de suivi du loup du Cantal, interrogé par des élèves de notre classe.
Quand on parle du loup.
Après la France, on est en gros à 500, entre 5 et 600 loups, peut-être plus près de 600 maintenant, enfin, par rapport aux Américains qui ont des populations beaucoup plus importantes, même aux Italiens, on n'est pas très bon. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de victimes, beaucoup d'attaques en rapport au nombre de loups qu'il y a en France. On a un système pastoral, bon, je suis pas sûr. Enfin, on a peut-être un peu moins de surveillance que, en particulier qu'en Italie ou en Espagne. Donc c'est les mesures de protection pour le loup, on n'en a pas parlé de ça, c'est important quand même. Donc il y a trois mesures principales. C'est des filets autour des troupeaux pour la nuit, c'est un berger et c'est des chiens de protection. Donc il faut qu'il ait, je crois qu'il faut qu'il ait mis deux des trois mesures en place. Donc pour être allé dans les Abruzzes il y a quelques années, les éleveurs, dans les Abruzzes en Italie, les éleveurs n'ont jamais, il y a toujours eu du loup, il y a même des ours. Donc eux ils cumulent, mais ils ont toujours vécu avec, donc ils ont des chiens de protection et c'est naturel d'avoir des chiens de protection. En France, on a perdu l'habitude du loup, puisqu'il n'y en avait plus du tout depuis les années 30, 1930. Donc on a perdu cette habitude de vivre avec le loup et on a du mal à retrouver un modus vivendi avec cette espèce de prédateur qui peut quand même causer des gros dégâts. Alors, au-delà des morts et des blessés, il y a les dégâts, il y a souvent des avortements, du stress chez les animaux et énormément de stress chez l'éleveur qu'il faut aussi arriver à prendre en compte et à comprendre. Il y a une aide pour les bergers, il y a une aide pour les filets, et les chiens sont pris en charge à 80, au moins 80%. Achat, élevage, nourriture. Et moi je fais partie, alors là c'est avec ma casquette syndicat, je fais partie du groupe national chien de protection. Et il y a un groupe national chien de protection pour essayer de faire en sorte que la présence de chiens de protection soit efficace. Que c'est bien d'avoir des chiens. Les chiens de protection, ce n'est pas les bordeurs,
c'est les patous.
C'est les patous et tous les dérivés, enfin, ou toutes les races qui s'en rapprochent. Et on s'aperçoit que tous les chiens ne sont pas efficaces de la même façon et que c'est de l'éducation et de l'élevage d'avoir un chien qui soit efficace dans un troupeau. Le chien de protection est un mouton. Dans sa tête. C'est pour ça qu'il faut les élever vraiment, les bons éleveurs de chiens de protection. Et c'est ça qu'on essaye de. Que le groupe national essaye de valoriser, de mettre en place, parce qu'il n'y avait pas de filière, enfin il n'y a toujours pas, il n'y a pas de filière de chiens de protection. Les acquisitions, elles se font principalement par Internet ou par un réseau informel. Donc on est capable de. Malheureusement, les éleveurs peuvent être obligés d'acheter des chiens qui ne seront pas bons. Parce que c'est de l'imprégnation. C'est-à-dire que il faut que le chien, à la naissance, le chiot, soit éduqué, soit élevé avec les moutons. Donc en général, chez les gens qui font ça bien, ils ont la mère Meba dans la bergerie, ils ont un petit coin pour eux. Mais ils sont tout le temps avec les moutons, et en fait c'est des moutons, un peu gros, avec des dents qui ne sont pas tout à fait des dents de moutons. Et ce qu'ils défendent c'est le troupeau, donc ils défendent leurs congénères. Et donc c'est aussi pour ça que ça peut poser des soucis, en particulier dans le Cantal, qui est un département de sport, de nature, de randonnée. Si on a des chiens de protection qui sont mal socialisés, qui sont mal dressés, on peut avoir des conflits avec les autres utilisateurs de la nature. Mais un bon chien de protection, après si vous passez en VTT au milieu en criant, il va vous attaquer. Si vous passez normalement, doucement, sans présenter de menace pour sa famille, ça se passera bien.
Quand on parle du loup.
Retrouvons maintenant, pour compléter ces informations, M. Antoine Brimboeuf, champion de France de conduite de chiens de troupeau ovins et bovins, responsable de troupeau, formateur à la bergerie de Rambouillet et lui-même éleveur avec sa compagne dans l'Indre, interrogé par des élèves de notre classe.
Si c'est difficile à adresser les chiens,
oui.
De conduite, hein.
Oui.
Les chiens de conduite, parce que les chiens de protection, ça ne se dresse pas. Pour avoir un chien efficace dans un troupeau de moutons, un chien de protection, c'est pas du dressage, c'est une technique de mise en place. En sachant aussi que la protection, c'est pas quelque chose de naturel chez les chiens. Il suffit pas de prendre un chiot, ça c'est un message important. Il s'agit pas de prendre un chiot d'une chienne patou qui est née dans la bergerie et de le mettre dans une autre bergerie en imaginant que tout va se passer sans problème. Ça fonctionne, mais il y a souvent besoin d'une surveillance et d'accompagnement, d'une surveillance accrue et d'accompagnement, et je dirais même une surveillance de tous les instants, hein, parce que ce n'est pas quelque chose de naturel, la protection du troupeau. Donc faut être hyper présent. Si jamais le chien, bah, il déconne, hein, un jeune chien qui joue avec des agneaux, c'est pas rare, chien de protection. Donc voilà, il faut être. C'est une technique de mise en place de la surveillance. Mais ça ne s'improvise pas pour autant, il y a moyen de se renseigner, de se former, de se faire accompagner. Voilà. Par contre, pour les chiens de conduite et de manipulation, même si on peut imaginer qu'avec certaines races très spécialisées comme le Border Collie, qui ont des grandes aptitudes au troupeau, ça se passe assez facilement. Ben, là, par contre, il y a besoin d'un dressage. Dans la question, vous me demandiez si c'était difficile. Non, c'est pas difficile. Enfin, c'est pas difficile. Non, c'est pas difficile. C'est surtout pas un don. C'est une technique. On apprend à dresser des chiens de troupeau, on apprend à régler un semoir, on apprend à tondre des brebis. Donc c'est absolument accessible à tout à chacun. Après, ça s'improvise pas nécessairement. Mais c'est pas un don. Il y a des gens qui sont plus ou moins doués, il y a des gens qui sont plus ou moins passionnés, qui vont passer plus ou moins de temps, parce qu'ils vont y prendre au-delà de la simple nécessité du dressage du chien, plus ou moins de plaisir. Mais c'est une technique qui s'acquiert, alors, ou bien pendant une formation, ou bien en accompagnement, dans le cadre, après l'installation, hein, dans le cadre de formations qui sont proposées par les chambres d'agriculture, avec des formations notamment qui sont proposées par des moniteurs agréés par l'Institut de l'élevage.
Texte d'introduction joué par Martin Hubert. Extrait du Petit Chaperon Vert de Camille.
Quand on parle du...